Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bonsoir à toutes et à tous. Les faits qui marquent l'actualité, les réactions et le reportage, c'est tout de suite avec Gisèle Cage. Voici les titres. Boutembo attaque contre le centre d'isolement Ebola de Kitatumba. Des hommes armés présumés Wazalendo ont fait irruption dans cette structure sanitaire, causant des dégâts matériels et une vive inquiétude parmi le personnel médical. Goma, près de 50 jeunes introuvables après un bouclage à Katindo. Leur interpellation présumée lors d'une opération menée dans le quartier voisin du camp militaire de Katindo suscite l'inquiétude des familles et du conseil urbain de la jeunesse. Manono, face à la menace des éléphants, Antonio Longangi, chargé de communication du parc national de Lupemba, explique pourquoi les opérations de refoulement peinent à contenir ces pachydermes responsables de destruction et de pertes en vies humaines. Il est l'invité de la rédaction. Une attaque qui ravive les inquiétudes autour de la riposte contre Ebola dans le Nord Kivu. À Boutembo, le centre d'isolement destiné à l'accueil et à la surveillance des cas suspects de la maladie à virus Ebola installé au sein de l'hôpital général de Kitatumba a été violemment pris pour cible il y a 2 jours. Selon plusieurs sources sanitaires et sécuritaires concordantes, des hommes armés présumés Wazalendo auraient fait irruption dans l'enceinte de la structure sémant la panique parmi le personnel de santé et perturbant momentanément les activités. Des dégâts matériels ont été enregistrés. Cette attaque intervient dans un contexte déjà marqué par des fortes préoccupations sécuritaires et sanitaires dans la région où les efforts de prévention et de surveillance de la maladie demeurent particulièrement sensibles. Le récit complet de cette attaque avec Martial Papimukeba.
Lors de l'attaque, les assaillants ont d'abord poignardé les policiers chargés de la garde et de l'établissement avant d'incendier la chambre d'isolement pour les cas suspects d'Ebola. Les faits ont rapidement été maîtrisés par les forces de sécurité selon des sources sécuritaires, mais des équipements médicaux ont été détruits. Un couteau, un bidon d'essence de 5 litres et des allumettes ont été retrouvés sur les lieux après la fuite des assaillants. Pour Muhindo Wasivinywa, coordonnateur du réseau pour les droits de l'homme Rido basé à Boutembo, cet incident témoigne une nouvelle fois des difficultés rencontrées par les équipes de la riposte.
Les Rido regrettent la résistance dans les chefs de certaines personnes à l'égard de l'équipe de la riposte. Nous avons vu des structures sanitaires détruites. Nous avons aussi constaté que certains membres des familles cachent les malades. Malheureusement, les cachant, ils contaminent plusieurs autres personnes.
Une enquête a été ouverte par les services de sécurité en fait d'identifier les auteurs de cette attaque. Béni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Après l'attaque d'un centre d'isolement à Boutembo, un autre défi complique la lutte contre Ebola, la désinformation. À Bunia, les rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux commencent à entraîner des répercussions directes sur l'économie locale. Depuis plusieurs jours, des messages largement relayés en ligne déconseillent la consommation de viande de bœuf en raison de l'épidémie d'Ebola. Conséquence directe, de nombreux habitants boudent les boucherie entraînant une baisse sensible de la clientèle et des ventes. Une situation qui préoccupe les professionnels du secteur déjà confrontés à de nombreuses difficultés. Les détails avec Jean-Claude Lokidile.
Les bouchers de Bounia parlent d'une baisse sensible de leur clientèle. Leur association a officiellement saisi les autorités provinciales pour dénoncer une campagne de désinformation qui, selon elles, met en péril leurs activités. Jean-Faustin Ounouti est l'un d'eux.
Des rumeurs circulent sur les réseaux sociaux affirmant que la viande de bœuf contient le virus d'Ebola. Pourtant, notre viande provient des abattoirs contrôlés par les services vétérinaires qui apprécient l'état de santé de la vache abattue.
Face à cette inquiétude, les autorités vétérinaires rassurent la population qu'aucune preuve scientifique n'établit un lien entre la consommation de viande de bœuf issue des circuits officiels et la transmission du virus Ebola. En revanche, elle déconseille la consommation de viande de brousse pendant cette période d'épidémie. Olivier Lumago est médecin vétérinaire.
Ils peuvent consommer encore la viande de vache, même la viande de porc ou de chèvre. Seulement, il faut se rassurer que c'est une viande qui a été bien préparée. Mais à cette période, vraiment, nous demandons aux gens n'est pas consommée d'abord ou n'est pas entrée en contact avec les singes, les chauves-souris, les primates ou autres.
Cependant, il demeure difficile pour les consommateurs d'identifier les boucheries qui commercialisent de la viande provenant d'abattoirs officiels, ce qui entretient le doute au sein de la population. Bounia, Jean-Claude Loki, il est Radio Capi.
Une urgence sanitaire qui met de vie en danger à Kananga, dont le Kasaï central. Les hôpitaux font face à une pénurie alarmante de sang. Les réserves de la banque de sang sont aujourd'hui presque épuisées, compliquant considérablement la prise en charge des patients nécessitant une transfusion en urgence. Dans plusieurs structures sanitaires, médecins et familles se retrouvent confrontés à une course contre la montre pour trouver des poches de sang. Une situation critique qui pousse les autorités sanitaires à lancer un appel pressant à la solidarité et aux dons volontaires. Le reportage d'André Katenenga Lamouloumé.
Chaque jour, des patients sont admis dans les hôpitaux avec un besoin urgent de transfusion. Mais bien souvent, la réponse est la même. Il n'y a pas de sang disponible. Au centre de santé de référence Kamulumba Eta, l'infirmier titulaire Kadine Tumba explique que l'équipe médicale est obligée de pratiquer la transfusion dite à chaud.
On cherche les membres de la famille de la personne malade qui a le même groupe ou bien les membres de la famille peuvent chercher une autre personne si le sang est compatible, on prélève.
Cette solution permet parfois de sauver des vies, mais les recherches peuvent prendre plusieurs heures pour trouver un donateur compatible. Jacques Ilunga en garde un souvenir douloureux. Son oncle est décédé avant d'être transfusé.
Papa,
nous avons amené mon oncle à l'hôpital provincial. Il était malade et il avait besoin d'une perfusion, mais comme il n'y avait pas du sang sur place, il est décédé. À la banque des sangs, le stock est faible. Le coordonnateur provincial indique qu'il y a plus de 10 ans, la province n'avait pas de frigo pour garder du sang. Mais récemment, le gouvernement central a doté cette structure en frigo, mais la difficulté persiste, le manque de donateurs volontaires. Il invite la population à avoir la culture de donner le sang pour sauver les vies humaines. Kananga, André Katendenga Lamouloumé, Radio Okapi.
L'angoisse gagne de dizaines de familles à Goma. Depuis plusieurs jours, près de 50 jeunes manquent à l'appel, sans nouvelles de leur destination ni de leur situation. D'après leurs proches, ces jeunes, parmi lesquels figurent des mineurs, auraient été appréhendés lors d'un bouclage effectué dans la nuit du 6 au 7 juillet dans des quartiers riverains du camp militaire de Katindo par des éléments présumés de l'AFC M23. Une disparition qui suscite inquiétude et interrogations. Le conseil urbain de la jeunesse de Karisimbi demande l'intervention urgente des organisations de défense des droits humains. René Lintimbonera nous en dit plus.
Selon plusieurs témoignages, les personnes interpellées auraient été appréhendées sur les avenues Salongo 3 et Katoi 1 dans les quartiers Mabanga Nord et Kasika en commune de Karisimbi. Des proches affirment qu'elles auraient d'abord été regroupées au stade du camp Katindo avant d'être embarquées dans des camions en direction d'un lieu non communiqué. Ces sources disent craindre un éventuel enrôlement forcé. Dans un communiqué diffusé ce mercredi matin, les conseils urbains de la jeunesse de Karisimbi appellent les organisations nationales et internationales de défense des droits humains à suivre ces dossiers de près et à établir la situation de personnes concernées. À ce stade, aucune réaction officielle de l'AFC M23 n'a été enregistrée concernant ces allégations. Le Conseil de la jeunesse appelle par ailleurs au respect du droit international humanitaire ainsi que de la Convention relative aux droits de l'enfant. Plusieurs acteurs locaux soulignent que cet incident survient quelques jours après d'autres interpellations massives signalées le 1er juillet à Goma. Selon eux, deux jeunes, deux femmes et des hommes avaient été arrêtés alors qu'ils célébrer les premiers buts marqués par les Léopards lors du match face à l'Angleterre. 31 de ces personnes avaient été officiellement libérées le 3 juillet, tandis que d'autres demeureraient sans nouvelles connues.
Malgré une légère baisse des chiffres, l'alerte reste de mise sur le front des droits humains en République démocratique du Congo. Dans son dernier rapport publié ce mercredi à Kinshasa, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, le BCNUDH, fait état de plus de 380 violations et atteintes aux droits humains recensées au cours du mois d'avril 2026. Dans les provinces secouées par les conflits armés, les populations civiles continuent de payer le plus lourd tribut entre exécution sommaire, enlèvement, violence sexuelle et déplacement forcé. Les explications de Grace Hamzati.
Le BCNUDH indique avoir documenté précisément 382 violations et atteintes aux droits de l'homme en avril contre 524 le mois précédent, soit une baisse de 27%. Une diminution qui, selon l'agence onusienne, doit toutefois être interprétée avec prudence en raison des difficultés d'accès à certaines zones touchées par l'insécurité. Près de 9 cas sur 10 ont été enregistrés dans les provinces affectées par les conflits armés, principalement au Nord Kivu, au Sud Kivu et en Ituri. Les groupes armés restent les principaux auteurs présumés de ces violations, l'AFC M23 arrivant en tête devant les Wazalendo, les groupes Mai Mai et les ADEF. Des agents de l'État, notamment des militaires des FARDC et des policiers, sont également mis en cause. Le rapport fait aussi état de 37 cas de violences sexuelles liées au conflit, ayant fait 52 victimes, en majorité des femmes et des filles. Le BCNUDH relève en outre des atteintes aux libertés d'expression, des réunions et des manifestations, ainsi que des menaces visant des journalistes et des défenseurs des droits humains. Enfin, le bureau conjoint souligne que 66 dossiers de violation des droits humains ont été traités par les juridictions militaires au cours du mois d'avril dans le cadre de la lutte contre l'impunité.
Une route à l'arrêt et avec elle tout un espoir de développement qui peine à avancer dans le Kwango. Depuis plusieurs mois, les travaux de réhabilitation de la route Mawanga-Panzi, longue de 150 km, sont suspendus. Une situation dénoncée par le cadre de concertation provinciale de la société civile qui réclame une intervention rapide du gouvernement central pour débloquer les fonds nécessaires. Selon cette structure, ce retard compromet les échanges, ralentit les activités économiques et accentue les difficultés des populations riveraines. Les explications des Symphoriens Kwengo dans un extrait proposé par Jean Gandou.
Le cadre de concertation provinciale de la société civile du Kwango exprime sa profonde inquiétude face au risque de voir les ressources destinées à ces projets être réaffectées à d'autres fins, comme cela aurait été le cas pour le financement du tronçon routier Kenge-Mawanga, dont les fonds n'ont pas permis l'aboutissement des travaux selon les attentes des populations. À cet effet, le cadre de concertation provinciale de la société civile du Kwango demande au gouvernement de la République de débloquer immédiatement les fonds nécessaires à la reprise des travaux de la route Mawanga-Panzi. Préserver les investissements déjà consentis en évitant la démobilisation du personnel et des équipements de l'entreprise ATCC. Garantir que les crédits alloués à ce projet soient exclusivement utilisés pour leur destination initiale. Assurer une gestion transparente de ressources publiques destinées aux infrastructures routières.
Ce sont les cris de joie qui résonnent dans les rues de Kindu. Les résultats de l'examen d'État 2025 sont tombés et de nombreux finalistes ont de quoi sourire. Publié dans la nuit du 7 au 8 juillet, les listes des lauréats ont rapidement attiré une foule des candidats impatients de découvrir leur sort. À première vue, le taux de réussite semble élevé. Depuis les premières heures de la matinée, une ambiance de fête s'est installée dans plusieurs quartiers de la ville. Les images et le témoignage dans ce reportage de Florence Kizalunga.
C'était aux environs de 22h que les cris des joies commençaient à se faire entendre, suivis des scènes de liesse. La même nuit, certains élèves, une fois rassurés qu'ils ont réussi, enfilent leurs uniformes comme pour dire adieu aux études secondaires. Dans cette euphorie, ils ne s'est pas empêchés d'exprimer leur joie.
Je remercie fortement l'Éternel Dieu de nous avoir accompagnés tout au long de cette année. J'ai réussi avec 55%.
Oh, moi, 65%.
Moi, j'ai eu 57%.
Oh, moi, 65%.
J'ai eu 53% à l'ITPK.
Oui, nous remercions le président de la République et notre ministre de la enseignement.
Je remercie mes parents pour leur effort, mes frères et sœurs, mes enseignants aussi.
Cette nuit-là, César et Lauréat étaient accompagnés de leurs parents et membres de famille pour donner de la saveur à ces moments festifs. Une mère de famille dont les enfants ont aussi réussi s'est ainsi exprimée. En vendant seulement des braises et farine de manioc, j'ai produit deux diplômes. Je suis très heureuse. Kindu. Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Qui dirigera la RDC de demain pour les participants aux assises de l'université protestante au cœur du Congo? La réponse passe d'abord par la formation. Convaincu que le leadership se construit sur l'éducation politique, l'éthique et l'essence du service, il plaide pour des réformes capables de faire émerger une nouvelle génération de dirigeants. Reportage d'Esther Nalafina.
Au terme de leurs travaux sur l'élite politique congolaise, les participants au colloque ont dressé un constat sans complaisance. Selon eux, la classe dirigeante actuelle peine à répondre aux attentes de la population et n'est pas parvenue à impulser une véritable dynamique de développement du pays. Monseigneur Dieudonné Mbaya Tchakani, recteur de l'UPCC, résume les conclusions des travaux.
On a dit que c'est une classe qui n'est pas arrivée à combler les attentes du peuple. C'est une classe politique qui n'a pas réussi à mettre sur pied un programme cohérent de développement de la nation. On a en conclusion dit que c'est une classe politique qui n'a pas mérité.
Pour José Mpiana, jeune engagé dans la société, le renouvellement doit passer par une transition progressive et une véritable transmission intergénérationnelle.
La jeunesse vient avec l'autonomie, avec la force, mais au-delà de la force et puis de cette nouvelle connaissance, on a besoin de ces vieux pour nous accompagner enfin qu'on soit autonome dans ce qu'on peut exercer comme fonction politique.
Autre enjeu majeur soulevé au cours des échanges, la place de la femme dans la vie politique. Professeur Jean-Marie Vianney Katembo encourage ainsi les efforts supplémentaires pour accroître la participation des femmes aux instances de décision. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le président américain Donald Trump a déclaré ce mercredi 8 juillet que le cessez-le-feu conclu avec l'Iran était désormais terminé. Cette annonce intervient au lendemain d'une série de frappes menées par les États-Unis sur le territoire iranien qui aurait causé la mort d'un membre des gardiens de la révolution. En réaction, Téhéran a lancé des attaques contre les installations militaires américaines situées au Koweït et à Bahreïn. Selon les commandants du commandement central des États-Unis, des frappes effectuée le mardi 7 juillet était 5 à 6 fois plus puissante que les opérations précédentes menées depuis la signature du protocole d'accord du 17 juin.
L'invité.
La cohabitation entre l'homme et la faune sauvage tourne au drame dans les territoires de Manono au Tanganyika. Depuis plusieurs semaines, des éléphants en divagation sèment la désolation dans plusieurs localités, détruisant des champs et provoquant la mort d'une dizaine de personnes. Face à cette situation préoccupante, les tentatives de refoulement de ces pachydermes se heurtent à de nombreuses difficultés. Notre invité Antonio Lungangi, chargé de communication du parc national de l'Upema, fait le point sur cette crise au micro de Paulin Munanga.
Monsieur Antonio Lungangi, bonjour.
Bonjour.
Nous apprenons qu'il y a un grand nombre d'éléphants d'après des sources sur place à Manono. Ces éléphants ont détruit plusieurs champs de la population dans plusieurs villages et ont causé la mort de plusieurs personnes. Quelle est la situation exacte sur le terrain avec la présence de ces éléphants?
Nous avons été informés et nous avons pris différentes mesures depuis 2023 pour essayer d'établir un peu la situation de l'éléphant dans la zone d'Ankoro, parce qu'il y a eu beaucoup de rapports sur la dévastation des champs et il y a aussi perte en vie humaine. Alors, pour l'instant, ça fait déjà une année depuis 2025 que nous avons, avec les autorités locales et certains partenaires, pris des mesures pour déterminer si vraiment ces éléphants-là sont du parc national de l'Upemba, parce que d'abord, ce sont des espèces intégralement protégées par la législation congolaise et ce sont un patrimoine naturel d'une importance exceptionnelle pour le pays. Alors, est-ce que ils proviennent exactement du parc? C'est la question que nous essayons de déterminer jusque-là. Et c'est dans cette optique-là que nous avons posé des colliers GPS depuis 2025 pour faire le suivi de leur migration. Donc, ce suivi télémétrique nous montre exactement par où ils passent. Et si ils étaient du parc, ils allaient sûrement se retrouver dans le parc. Mais Ankoro, c'est à 200 km de la limite nord du parc. Donc, c'est encore une question qu'on est en train d'analyser et un rapport qui sera établi bientôt pour savoir exactement si ces éléphants-là, parce que pour l'instant, la théorie est que ces éléphants-là appartiennent à cette région d'Ankoro. Ils appartiennent dans le territoire de Manono. Et s'ils provenaient du parc, ça doit faire beaucoup d'années que cela s'est passé. Et comme ce sont des espèces migrateurs, c'est juste normal qu'ils se retrouvent dans différents endroits dans la région.
Et vous avez dit que vous avez placé des colliers GPS sur certains de ces éléphants. Qu'est-ce que cela a donné comme résultat?
Pour l'instant, nous savons exactement leur corridor de migration parce que c'est depuis juin-juillet l'année passée que cet exercice-là a été conduit. En ce moment ici, comme je l'ai dit, il y a un rapport qui est en train d'être établi. Et il y aura d'autres données qui les seront fournies par le département de biomonitoring qui fait les suivis quotidiens. Et jusque-là, ce que nous avons pu faire, c'est aussi alerter les communautés à travers le radio aux communautaires qui sont dans la zone. Quand un éléphant ou un troupeau d'éléphants se retrouve dans un endroit proche d'un village, il y a toujours une communication et il y a des alertes qui sont envoyées pour prévenir les populations que les éléphants sont dans cette zone-là.
Et vous confirmez que ces éléphants n'appartiennent pas au parc Upemba?
Pour l'instant, on n'a pas de conclusion qu'ils appartiennent au parc Upemba parce que leur zone de migration se retrouve dans le territoire de Manono exclusivement.
Et à combien peut-on évaluer actuellement le nombre de ces pachydermes?
On n'a pas de chiffre exact parce que les colliers GPS n'étaient pas placés sur tous les éléphants, c'est juste certains troupeaux. 6 troupeaux seulement ont eu le collier GPS, mais ça peut aller dans une centaine.
Et pourquoi ces éléphants sont toujours en divagation?
Naturellement, les éléphants, ils migrent saisonnièrement. Alors avec ces migrations-là, c'est un peu difficile de déterminer où est-ce qu'ils vivent exactement. Parce que au même moment, nous avons des éléphants qui sont dans le parc. Et ces éléphants du parc, et aussi, ils migrent parfois dans la zone annexe, dans la zone intégrale. Ils sont toujours entre cette zone-là qui est connectée au parc. Mais ces éléphants qui sont dans le territoire de Manono, eux, ils migrent, ils viennent du nord, à différents villages, se retrouvent vers Kiofoué, et après ils remontent encore. La première fois que nous les avons vus traverser le fleuve, c'était en décembre 2025, qu'on les a vus traverser le fleuve et s'approcher du parc. Mais comme ce n'est pas leur zone, ils sont rentrés encore au nord. Et normalement, ils viennent du nord vers des localités comme Tatou, Kala. Et parfois, ils descendent, repoussés par des moyens de refoulement qui ne sont pas adaptés, surtout les armes à feu, et ils viennent terroriser. Et quand ils descendent, tout humain qu'ils vont retrouver en chemin est en danger. Et c'est ça, c'est que nous essayons aussi de décourager à ces refoulements-là pas adaptés qui créent des problèmes quand les éléphants descendent, quand ils migrent. Mais officiellement, nous savons qu'ils sont entre le village Tatou et quand ils descendent au sud, ils s'approchent pas vraiment du parc, ils traversent même pas le fleuve.
Et que faudrait-il faire pour refouler ces éléphants afin que la population vit tranquillement?
Le refoulement serait un peu compliqué parce que c'est aussi leur zone, c'est là qu'ils vivent aussi. Mais il y a des méthodes testées et adaptées qui peuvent encourager la cohabitation entre les populations et ces éléphants-là. Et ça fait partie des études que nous sommes en train de conduire au niveau du parc.
Monsieur Antonio Longandi, je vous remercie.
Merci à vous aussi.
Vous l'avez compris, ainsi s'achève cet entretien avec Antonio Longandi, chargé de communication du parc national de l'Upemba. Il est revenu sur les défis liés à la divagation des éléphants dans les territoires de Manono, au Tanganyika et sur les efforts entrepris pour limiter les dégâts causés aux populations. Il répondait donc aux questions de Paulin Munanga. Voilà qui met un terme à cette grande édition. Merci de l'avoir suivi sur Radio Okapi. Au micro, Gisèle Cage, à la mise en onde, Alain Goy, supervision Jean Gandou, coordination Élisée Chikota. L'actualité reste à portée de clic sur radiokapi.net et sur toutes nos plateformes numériques. Bonne soirée à tous.